fait, c'est une soirée où on va essayer de comprendre ce qui se passe dans une résidence. Donc, une des choses qui s'est passée dans la résidence, c'est l'atelier ici à la Maison des Seniors. Mais il y a eu beaucoup d'autres ateliers ailleurs. Et puis, une résidence pour un écrivain, c'est à la fois un moment où il essaie de favoriser le générer de l'écriture un peu partout dans l'ensemble de la population, mais c'est aussi un moment où, en principe, il a du temps pour écrire. J'espère qu'on a laissé un peu de temps pour ça à Marie-Célie.
On en parlera demain.
Mais quand même, ce soir, il va y avoir deux parties à cette soirée. Une première partie où, justement, Marie-Célie est là comme auteur. Pas comme animatrice d'atelier d'écriture, mais comme auteur, et va nous faire part de ce qu'elle a pu écrire pendant sa résidence, de voir comment ce temps de résidence a pu nourrir son projet d'écriture, et puis nous lire des extraits de ce qu'elle a écrit pendant sa résidence à Montpellier. J'ai complètement oublié de dire, si vous pouvez boucher gentiment toutes les petites machines infernales pour qu'elles fassent un gros dodo. C'est très important. Voilà. Et ensuite, dans une deuxième partie, eh bien, il y aura des lectures de textes qui viendront des différents ateliers qui ont été animés par Marie-Célie. Alors, bien évidemment, l'atelier d'ici, à la Maison des Seniors. Un atelier qui s'est fait à la Paillade, dans l'association Ténina. C'est pas la Paillade ?
Oui, c'est la Paillade.
Un qui s'est fait à la boutique d'écriture. Et puis, il y a eu aussi des ateliers avec des enfants. Mais là, on n'aura pas de lecture de ce travail-là, parce que c'était un conte assez long. Et donc, ça aurait été un peu compliqué de l'inclure dans la lecture. On a pris le parti aussi de ne pas vous rendre compte des ateliers en lisant les textes atelier par atelier. Donc les textes sont mélangés des différents ateliers. On a essayé de créer une lecture un peu cohérente. Voilà. Je ne sais pas si on attend encore des personnes ou si on peut commencer. Donc.
Eh bien, bonsoir à tout le monde ici. J'ai l'impression d'être dans une grande famille parce qu'il y a plein de gens que j'ai croisés à tant de reprises ici ou ailleurs. Alors, ça me. Je suis un pays de connaissances. Je me sens très, très bien. Je vais, comme Lynn a dit, lire des extraits de. Le livre sur lequel je suis en train de travailler, mais auparavant, j'ai pensé écrire un petit mot sur l'expérience de la résidence, pas de manière très, enfin de manière un peu plus, un peu comme une création littéraire, parce que je n'aime pas beaucoup écrire les trucs comme les rapports, les bilans, les trucs comme ça, très, ni les trucs scientifiques, je suis toujours dans la création, alors c'est quelque chose un peu de, comme une création littéraire. Et j'ai pensé que j'aurais pu intituler ce texte que j'ai perdu hier dans mon ordinateur et puis que j'ai dû réécrire malgré l'aide de Sylvain qui travaille ici à la boutique. Il a couru à toute vitesse à la maison pour m'aider, mais je ne sais pas où est-ce que le texte est passé. L'ordinateur a décidé autrement. Alors j'ai repris le texte et j'ai pensé que j'aurais pu intituler ce texte Il y a l'écrivain sans point qui a écrit un livre qui s'appelle « L'écriture ou la vie ». Moi, j'ai pensé qu'on pourrait dire « L'écriture, c'est la vie », parce que c'est un peu ça. Mon expérience avec l'écriture, c'est une expérience humaine. C'est la vie, simplement, qui demande que l'on écrive, tout comme le théâtre. J'ai travaillé avec une troupe pendant quelques années qui s'appelle le « Bread and Puppet Theater ». Au fait, c'est dire que le théâtre, c'est aussi important que le pain quotidien, et pour moi l'écriture c'est un peu pareil. L'art devrait faire partie au fait de notre vie au quotidien. Alors c'est dans ce sens que j'ai vécu cette expérience d'écriture avec des gens de tous les horizons. l'expérience de vie, l'expérience humaine. Plus que l'expérience, enfin littéraire au sens que l'on donne finalement à la littérature. Alors, nous sommes tous issus, je vais lire de manière, enfin je vais me coller sur mon texte parce que je préfère le faire comme ça pour ne pas perdre le fil. Nous sommes tous issus d'un espace particulier. Nous avons des repères, parfois un pays. Le plus souvent, une histoire collective que l'on voudrait croire belle, à défaut de la croire merveilleuse. Nous avons aussi nos histoires individuelles ou personnelles que l'on espère pouvoir raconter. Nous avons bien sûr des acquis, quelquefois mal acquis. Fort heureusement, nous ne prenons pas toujours la pleine mesure des processus et procédés d'acquisition de tous nos acquis, et c'est très bien ainsi. On range souvent tout ce blabla d'acquisition dans la catégorie d'héritage. Ça fait joli et ça permet de rêver. Cette construction relève au fait du fait qu'on nous enseigne dès le berceau que nous sommes ou bien ceci ou bien cela et rien d'autre, et que notre existence n'a de sens qu'à l'intérieur de ces cadres préétablis. Cependant, vient un temps où la pensée s'affranchit. Quelle chance! On comprend alors d'une toute autre manière l'évolution des choses et notre propre évolution. On découvre aussi le doute. On apprend que l'on peut se tromper, que ce que l'on nomme espace particulier ou encore ceci ou cela peut déborder des cadres préétablis et que le trait particulier que l'on pense n'appartenir qu'à nous et à nous seuls appartient à tous, car il s'agit de la vie, une vie qui nous est prêtée et aussi notre fragilité en tant qu'être humain. Ça, c'est universel. On s'engage souvent après l'étape de cet affranchissement de la pensée dans une quête multiple, une quête souvent folle, quête de soi, quête d'un espace à soi, quête identitaire. Une quête identitaire qui souvent peut se révéler périlleuse. Engagé dans cette quête, on veut tout faire pour retenir le temps, essayer d'atteindre le particulier, se distinguer. Mais cette quête porte aussi en elle un espoir. Un espoir parce qu'on apprécie la vie. On veut mieux la comprendre, l'appréhender, la fortifier, ou encore ce qui tient lieu de vie, ce fil ténu, tellement dérisoire. Plus je vieillis, plus je vois que la vie, c'est un fil ténu, parce que les gens de ma génération, déjà, commencent à partir. Engagé dans cette quête, on se rend compte tout le long du chemin, parce que c'est un chemin, qu'il ne s'agit que de vivre. Mais comment vivre sans dire? Comment vivre sans parole? Comment vivre sans laisser éclore ce désir ardent de parole qui nous tenaille dès notre arrivée au monde, parce que les enfants, bon, très vite, ils commencent à babiller et à vouloir dire eux aussi. On apprend donc à s'ouvrir à la parole. Puis on découvre qu'il ne suffit pas seulement d'accéder à la parole, il nous faut une langue. On part donc à la conquête de cette langue. On veut à toute force la faire advenir. On aspire qu'à la faire sienne, la posséder, faire corps avec elle, pour pouvoir nommer, pleurer, dire, crier, refuser, déclarer, célébrer, exister. Faire exister. On la désire plus que tout, cette langue, comme une promesse de lumière. On la rêve sensible, on la rêve telle une palette de couleurs, on la rêve une langue métronome, une langue tambour, une langue à fleur de peau. On la rêve forte et profonde, on la veut belle et légère, on la part de toutes les qualités. Cette langue doit pouvoir dire l'amour, chanter l'amour, le transmettre, transmettre quelque chose, transmettre ce que nous croyons être notre héritage, transmettre des histoires, les raconter. Elle doit pouvoir refonder la mémoire, la retenir, la préserver, dénoncer les mensonges, imaginer des espaces, façonner des êtres, nos personnages, aller à la rencontre d'autres univers, les sonder, les comprendre du dedans. Elle doit pouvoir tendre la main, toucher les cœurs, dire des paysages, décrire un mimosa en fleurs et tant d'autres choses encore. C'est une quête interminable s'il en est, et le chemin est souvent très long et ardu. Mais que de surprises et de belles choses il nous réserve. Par chance, nous ne sommes pas sur une route déserte. Tout comme nous, nombre de pèlerins sont engagés sur cette route, dans la même quête. C'est ainsi que sur mon chemin, passant par Montpellier, boulevard Figuerolles, j'ai croisé une druidesse, Lynn Colson. J'ai cru, lorsque je l'ai rencontrée, que c'était une chef Mohawk qui avait quitté les vastes étendues glaciales du Canada pour venir à la rencontre du soleil de la Méditerranée. Affable, elle m'a proposé non pas un calumet de paix, mais une clope. J'ai décliné par politesse, mais j'ai accepté son offre de planter ma tente pour 6 mois, rue Pierre Fermeau, au cœur au cœur de Montpellier. Généreuse, Lina a mis toute son équipe à contribution pour me faciliter la tâche. Vous savez, quand je suis en panne, j'appelle Sylvain. Lina est une bâtisseuse. Elle aime ériger des ponts, jeter des passerelles. Elle avait en tête une multitude de ponts à bâtir lorsque je suis arrivée. Le temps dont nous disposions s'est chargé de la freiner dans ses élans. Tous les ponts, toutes les passerelles convergent vers la parole, donc vers la vie. Vous comprenez que je me suis retrouvée comme un poisson dans l'eau. Dans cette eau, j'ai croisé celles et ceux qui, comme moi, avaient ce besoin d'une parole capable de nommer, rappeler, décrire, expliquer, peindre, toucher, caresser, que sais-je encore. Ce qui traquait cette parole passerelle entre passé, présent et avenir. Parole entre eux, entre nous et les autres. Parole à sculpter, parole à modeler, à transmettre à leurs descendants. Parole à mettre au monde. J'ai croisé des femmes et des hommes en marche vers la parole pour l'apprivoiser. Ils ont tenté de la séduire avec de beaux mots, ils ont changé de peau, ils ont écrit dans et avec la voix des autres. Ils se sont fait alchimistes, ils ont ajouté, retranché, essayé tous les dosages. Ils ont surtout cherché à écouter non seulement les voix, les cris, les chuchotements, mais aussi les bruits du monde. Vaste entreprise avec toute la cacophonie dont ce monde est capable. Ensemble, nous avons semé des mots, puis la parole a essaimé, elle a germé et même éclos. Elle a dit des silences, des envies, des désirs, des petits et des grands bonheurs. Elle a murmuré des chagrins, des douleurs, des joies. Elle a chuchoté des secrets. Elle a bien sûr bouleversé, remué, puis apaisé et plus encore, parce que la parole, c'est tout simplement la vie. Le voyage se poursuit, mais c'est peut-être là qu'il débute aussi pour moi et pour d'autres. Pour moi, j'ai appris que l'écriture peut apporter encore plus de plaisir que je ne le croyais. Au fait, ça a été une révélation pour moi parce que je me suis toujours sentie un peu prisonnière de mon histoire, prisonnière au fait d'une forme d'écriture. Et avec tous les ateliers que j'ai menés, auxquels j'ai assisté, pas beaucoup, j'aurais voulu en assister à plus, j'ai pu appréhender l'écriture d'une autre manière et c'est quelque chose de vraiment formidable. C'est comme si ces ateliers, cette expérience m'engage maintenant dans un renouvellement de ma pratique d'écriture et cela vaut toutes les résidences. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous tous qui m'avez permis de vivre cette expérience. Et Lynn veut absolument que je vous lise quelques extraits de mon livre qui est en cours de travail. Alors j'ai choisi quelques... C'est un livre dont j'ai un titre de travail. Le titre de travail, je dis un titre de travail parce que le titre du livre, quelquefois, il change en cours de route ou quand le livre est terminé, on voit avec l'éditeur si le titre convient encore parce qu'un livre, c'est un pèlerin aussi. Il est sur un chemin, on ne sait pas où est-ce qu'il va aboutir. Je sais bien ce que je veux écrire, mais je vous assure que je suis en train d'écrire, mais je ne sais pas où je vais. Alors, le titre de travail, c'est « Le thé chez Junon ». C'est un livre qui est basé sur une histoire, qui parle encore d'Haïti, mais aussi d'ailleurs. L'histoire se passe dans une maison où il y a des femmes déjà âgées, dont une qui est venue d'Haïti et qui a été journaliste pendant de longues années et qui, lorsque Duvalier est arrivé au pouvoir, a été une des premières journalistes à être victime de la dictature qui... Elle a été saisie chez elle en pleine nuit avec ses enfants, ses filles. Et enfin, il y a toutes sortes de choses que l'on raconte sur ce qui s'est passé lorsqu'on a pris ces femmes et qu'on les a sorties. Elle a été battue, elle a été... Mais ce que je sais, c'est qu'à partir de ce moment-là, elle n'a plus jamais écrit un mot. Et elle a décidé de transmettre, encore une histoire de transmission, cette histoire à sa petite-fille qui l'a suivie dans l'exil au Canada. Et avec elle, dans ce lieu de résidence, il y a des femmes qui sont venues d'Espagne. À un moment donné, il y a eu une immigration de l'Espagne vers le Canada à la faveur d'une opération qui s'appelait l'opération Bisonte, où on a recruté des travailleuses, des travailleurs qui sont venus s'installer au Canada. Et il y a une des femmes un des personnages qui est arrivé au Canada à la faveur de cette opération Bisonte. L'histoire de l'Espagne me fascine à travers un écrivain, Lorca, que j'ai beaucoup lu, que j'ai beaucoup étudié, qui a renforcé en fait cette passion pour l'Espagne. enfin la similitude aussi de, du franquisme avec le duvalierisme. Alors je travaille sur ces personnages et en même temps un troisième personnage qui est une femme du Québec mais qui a vécu au moment du, de l'époque de Duplessis où l'Église existait, exerçait une répression très très forte alliée à l'État bien sûr sur la population du Québec, principalement sur les femmes. Qui étaient là comme des ventres pour porter des enfants, pour sauver cet État, finalement, cet État francophone qu'il voulait, enfin, pour le protéger, au fait, au milieu de l'Amérique anglophone. Alors voilà, j'ai senti quelques parties, et dans tout ça, il y a des histoires de disparition, il y a énormément d'enfants qui ont disparu sous Franco, on les enlevait de leur famille. Alors voilà, ce que j'essaie de faire, comme je dis souvent, c'est pas d'écrire uniquement à propos d'Haïti, mais d'essayer de tisser des liens, tisser des passerelles entre toutes ces histoires humaines, enfin la grande histoire, d'écrire aussi enfin, ce que j'appelle l'histoire du dedans, tout ce qui se passe à l'intérieur des êtres confrontés à cette grande histoire. Alors c'est un peu ça le thé chez Junon. Junon, c'est la petite fille d'Yvonne Akim-Rimpel, qui est cette journaliste haïtienne qui a été victime de Duvalier, je pense, en 1958, au mois de janvier. Voilà. Le passage que je vais vous lire s'intitule « L'aïeul ». Alors, il y a un enfant qui disparaît, et il y a une femme, une grand-mère qui est là et qui attend le retour de cet enfant. Je sais que, sitôt réveillée, elle se met à penser au jour où tu reviendras. Elle se dit que dans la maison, tout sera comme avant. Elle se dit que tu reprendras ta place parmi nous, comme si ton départ ne datait que d'hier. Tu te souviendras, croit-elle, de tous ces moments passés dans son giron, les longues journées dans la douce tiédeur de l'ombre sous la tonnelle de la tanière, et des soirées où le bonheur était un dû et une absolue certitude. Une fois habillée, elle grimpe l'escalier. À chaque marche, elle s'arrête. J'entends son souffle. Il grince, il grillonne, je m'affole. Son cœur ne va-t-il pas tout simplement s'arrêter? J'entends ses membres de bois, ils se traînent, raclant affreusement le bois vieilli des marches. Elle refuse de se faire aider, ne veut pas qu'on la dissuade. Conçoit-elle cette montée comme un calvaire? Quelle récompense attend-elle au bout du sacrifice et de quel dieu? Elle ignore sans doute que les dieux eux-mêmes sont devenus sourds depuis si longtemps. J'ai peur de l'entendre dégringoler. Mes craintes augmentent à mesure qu'elle poursuit son ascension. Lorsqu'elle atteint le haut de l'escalier, la dernière marche, elle est à bout de souffle. Elle ne bouge plus. Et moi, je tremble. Trop tard pour faire marche arrière. Elle pose sa main sur la rampe, puis sur la poignée de la porte. Je retiens ma respiration car elle peut encore basculer. Quand je pense que nous l'avions installée au rez-de-chaussée pour lui éviter cette montée, je respire lorsque me parvient le couinement de ses pas au moment où elle pénètre dans ta chambre. Que reste-t-il de toi dans sa mémoire en pagaille? Des images vagues? La chaleur de ta voix? Je ne sais que dire ni comment dire. Elle ne permet aucune brèche dans laquelle s'engouffrer pour atteindre son désarroi. Intenable le silence de son regard, sauf lorsque, levé vers le ciel, ses yeux dépêchent une supplique qui toujours demeure sans réponse. Aujourd'hui, lorsqu'enfin elle est entrée dans ta chambre, tous les bruits de la maison et du dehors se sont évanouis. Il n'y avait que le vent dans les branches de l'amandier et rien d'autre. Comment savoir ce qu'elle fait, enfermée dans la chambre comme dans un sanctuaire? J'entends tourner les pages d'un livre. Peut-être prie-t-elle. Elle doit regarder des photos jaunies, ses parchemins de tendresse vieillis. Au bout d'un long moment, quand je la crois endormie, me parviennent ses gémissements. Ils annoncent les vagues de sanglots, puis le cri, ce cri pareil à la sirène d'un navire en perdition. C'est tout ce qui lui reste, le cri engouffré en elle. Les jours, les nuits, les heures n'ont plus de sens. Tout se résume à ce cri qui, sans répit, lui lacère le sang. Ce cri dans son corps submergé par la douleur. Plus qu'un corps déserté et abandonné de tout. Le cri, son monde, son geôlier, sa prison. Inutile de parler de renoncement. En elle, plus aucun espace pour les mots. Elle a d'ailleurs oublié tous les mots qu'elle connaissait, du premier au dernier. Un jour, c'était au tout début, elle a ouvert la bouche pour essayer d'agencer les mots sur sa langue. Il n'y avait que le gouffre et le sablier figé dans le cri. Elle doit penser parfois que la vie l'a abandonnée, car elle n'a de lien avec l'existence qu'à cause des morsures du cri dans ses entrailles et des mêmes sillons sans cesse labourés. À quand remonte son dernier repas? Depuis quand a-t-elle vraiment dormi? Elle n'en sait rien. Elle a tout perdu. Tous les repères, toutes les balises, sauf le cri et la douleur. Comme une hache dans sa poitrine, cette douleur engendrée par le cri cogne sans répit. Elle n'entend que des râles, ne vit que pour sentir des crocs s'enfoncer en elle. Loin, toujours plus loin. Ses yeux vides, ses lèvres desséchées, tout son être dit ce mal pour lequel les mots n'ont pas été inventés. Ce mal d'entrailles n'est pas une chimère. Ce n'est pas non plus une folle légende de famille venue d'un autre temps. Vorace, ce mal lui grignote jusqu'à l'âme. Et il a un nom. Il a aussi un visage et surtout une voix. À cause de la peur, de cette terreur omniprésente, on se dit que cette hébétude qui jour après jour grandit comme un lac sous ses pieds finirait bien par l'engloutir. On ne le souhaite pas, bien sûr. Mais on croit que ce serait mieux ainsi. On se dit aussi qu'à son vieil âge, 3 fois 30 ans, il ne lui reste plus rien à apprendre ni à attendre. Mais elle attend. Le jour, ratatinée et vulnérable, solitaire, tel un cours d'eau sans voix, elle traverse l'immense désert qu'est devenue son existence. Sur ses jambes maigres, enveloppées de bas aux couleurs funèbres, ailes de corbeau, chair morte, flageolante, elle se traîne jusqu'au banc, sous l'amandier. Elle attend. Elle contemple souvent ses mains. Elle les tourne, les retourne, suivant d'un index hésitant les lignes, les traces qui auraient pu augurer cette saison d'amertume et de désespoir. Souvent, on la voit compter sur ses doigts, tout en marmonnant quelques berceuses d'un autre temps, surgit comme pour la narguer, de sa mémoire encombrée par les échos du cri. Quelquefois, elle se met à même le sol, se blottit dans les racines de l'arbre, comme pour s'y perdre, pour entrer dans ce tronc, comme on entre dans une boîte, et s'endormir à tout jamais. Recroquevillée sur les racines, elle ramasse des petits cailloux, et elle compte les jours, les saisons, les siècles d'absence. Le soir, elle se traîne au coin devant l'âtre. Éteinte, elle égrène machinalement un rosaire. Ses yeux seuls, rivés sur la porte laissée ouverte nuit et jour, offrent une échappée. Le temps n'est plus temps, dans son corps ni ailleurs. Le temps, falaise et éboulie, charrie sa vie démembrée. Le temps, plus que l'écho entêtant d'un cri qui module son mal. C'est qu'elle avait vu grandir l'enfant. Tel cet arbre qu'elle aurait elle-même mis en terre, elle l'avait couvé, aimé, comme elle n'aurait jamais cru possible d'aimer. Combien de prières, combien de neuvaines lui fallait-il encore adresser à cette Marie, mère de Dieu, de tous les hommes et de toutes les femmes, pour qu'elle lui ramène l'enfant? L'enfant parti, celui dont elle n'entend plus la voix que dans ses rêves. Envolé son enfant, ne lui laissant comme héritage qu'un cri sans fin. À son vieil âge, 3 fois 30 ans, elle est orpheline de tout. Mais dans la nuit sans clémence, elle attend quand même. Parfois, on dirait que toute son attention soudain revient. Elle s'anime comme si dans son cauchemar, l'enfant apparaissait, se tenant debout devant elle. Dans ce songe cruel et insaisissable, elle ouvre les bras, fait de son mieux pour contenir son tremblement, tend avec application l'oreille pour ne percevoir au loin que les hurlements rauques et éperdus des chiens déboussolés, mêlés au martèlement cadencé des pas des soldats. Ça, c'est le premier extrait. Le deuxième extrait, il n'est pas encore très bien... je ne sais plus trop comment je vais l'utiliser, mais j'écris comme ça par blocs, des blocs de texte. Et dans ce deuxième extrait, il y a la rencontre d'un colonel avec un membre d'une de ses familles qui a perdu quelqu'un. C'est, je crois que la personne qui va rencontrer ce colonel est une femme âgée également, très très vieille. C'est peut-être la grand-mère, mais ça je ne le sais pas encore. Et c'est la rencontre avec le colonel, je vais vous le lire. Avec lenteur, la porte s'ouvrit. Il sentit ses jambes flancher quand les yeux de la femme se posèrent sur lui. Ce regard trop intense, malgré le voile gris et délavé des pupilles, lui fit l'effet d'un coup de sabre, lui lacérant le visage. Il se dit qu'il y avait là quelque chose d'irréel. Il pensa qu'il devait s'écarter d'elle, voulut bouger un bras, puis l'autre, mais il ne fit que basculer d'avant vers l'arrière. Ses pieds refusaient de lui obéir. Tout son corps se raidit et une armée de fourmis entreprit d'escalader ses membres. Et ce regard qui brûlait plus qu'un tison. La détermination qu'il lisait dans les yeux de celle qui se tenait devant elle et qui, depuis si longtemps, avait cessé d'être femme, avait quelque chose d'absurde et d'effrayant. Qui était-elle? Pourquoi se trouvait-elle dans son bureau? Comment avait-on pu la laisser entrer? Et comment, si vieille et si ratatinée, avait-elle pu gravir ces escaliers si raides qui menaient au bureau? Il devrait sonner, faire venir le factotum, appeler la sentinelle, appeler quelqu'un, mais il ne faisait que la regarder. Il y a, pensait-il, quelque chose, plus qu'une flamme, quelque chose qui vient de plus loin que le regard et qui, peu à peu, dénue de ses pupilles, déchire le gris. Les yeux de la femme, vit-il soudain, n'étaient qu'éclats de silex. Il se demanda s'il devrait tenter de l'effrayer et comment. Il ne se rappelle pas avoir connu une telle peur. Se surprit à s'interroger sur ce que recelaient les plis du vêtement informe qui enveloppait ce paquet de chair morte. Il abandonna bien vite l'idée d'une tentative d'intimidation. L'attitude de la femme en disait long sur sa force et sa détermination. Elle ne manifestait aucun des réflexes habituels de ceux que la crainte habite. Il dut s'avouer qu'il était bien celui que la peur ferait chier dans son froc et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. La voix de la femme, glaciale, soudain s'éleva, et l'écho, sauvage, se mit à résonner dans ses tempes, puis dans sa poitrine. Alors c'est la voix de la femme qui parle. Il y a ceux qui optent pour le crime, mais il y a aussi ceux qui ne connaissent de la haine que les sanglots et le brasier. Il y a ceux qui n'atteignent le ciel que sur les ailes avides des charognards, mais il y a aussi ceux qui, de leurs mains nues, lavent la terre souillée de tout le sang pétrifié. Il y a ceux qui, arrogants, chevauchent taureaux et dragons aux naseaux fumants, ceux dont les hurlements font trembler le soleil. Mais il y a aussi ceux que la gloire oublie, ceux dont les plaintes émeuvent jusqu'à l'immense nuit, sans cesse, en quête de sang. Et elle poursuit, la gloire peut tout oublier. Moi, je suis incapable d'oubli. L'oubli impossible et inacceptable a conduit mes pas jusqu'à ton antre, poursuivait-elle en avançant d'un pas vers l'homme. Ce dernier voulut reculer. Il manqua de s'affaler sur le dos. La voix, tellement limpide, contrastait avec les plis qui couraient sur son visage. « Je ne suis pas ici, dit-elle, pour négocier le rachat des endurcis, ni pour plaider le réveil des consciences à jamais endormies. L'enfant qui dort dans mon âme, celui qui ne m'a jamais quitté, qui guide mes pas et mes actions depuis son départ, lui seul m'a conduit jusqu'ici. » Le visage de l'homme tressaillit malgré lui. Il tenta à nouveau de bouger un bras, et reçut dans tout son corps comme une onde de choc. Ses traits se figèrent pourtant en un masque menaçant. Cela n'échappa pas à celle qu'il considérait comme son adversaire. Il eut l'impression d'un sourire furtif sur les lèvres déformées. Pantelant, il continuait à la dévisager. Des spasmes commençaient à agiter son corps. Elle enchaîna. Je suis la surprise mauvaise, la parenthèse inattendue que l'on voudrait rayer. Impossible, vois-tu. À mon âge, je peux être ce que bon me semble, car je ne suis plus. Ces paroles ne sont pas les miennes, ce sont celles du grand sablier. Je ne suis certainement pas de ton monde. Mon monde à moi est celui du réel et de l'humanité, dans toute sa splendeur. Dans le monde d'où je viens, le destin n'existe pas, tout comme n'existe pas la peur ni la feinte pudeur. Voilà. Alors, c'était une dédicace pour Lynn.
Merci beaucoup, Marie-Céline, parce que je sais que c'est vraiment aussi se risquer que de lire un travail qui est en cours. Déjà, une lecture pour un auteur, c'est toujours se risquer. Mais lire quelque chose qui n'est pas encore finalisé, ça demande, j'ai envie de dire tout simplement, une forme de courage. Voilà. Donc, merci de nous avoir offert ça.
Merci. Merci. Alors, nous allons... Alors, peut-être s'il y a quelques questions vis-à-vis de Marie-Célie, quelques remarques à cette lecture, avant que nous continuions avec des lectures des textes des ateliers.
Quelques suggestions également.
Ou quelques suggestions.
Guylaine veut dire quelque chose.
Non,
sur le coup, non, je ne peux pas. Déjà, je prends.
Je t'écrirai plus.
Oui.
De toute façon, il est pratiquement impossible de parler à la place de l'auteur, puisque c'est l'imagination et c'est surtout le ressenti.
C'est vrai.
Oui. Ma maman, donc, j'étais malade. Il n'y a rien à dire, que de, voilà, de le ressentir. Mais on aimerait bien avoir le morceau qui se
apparaître.
Apparaître. Dans combien de temps, ça, je ne sais pas. L'histoire ne le dit pas.
Mais nous allons quand même vous faire une confidence, c'est que Marie-Célie a tellement aimé son séjour à Montpellier qu'elle envisage de revenir à l'automne. Et donc, il se pourrait bien que lorsque son livre sera achevé et publié, nous puissions revenir avec Marie-Célie ici pour une lecture où vous en saurez plus. C'est votre curiosité pour être assis. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on va enchaîner sur les lectures des thèses des ateliers, et puis du coup, les questions, les réponses, les échanges se feront peut-être après aussi, tout ça. Donc,
je vais vous lire un texte qui a été écrit ici à la Maison des Seniors.
Non.
Et c'est pas. Moi, je m'appelle Marie-Agnès, mais ce n'est pas moi qui ai écrit ça, je suis juste à l'écrit.
Ah oui, Marie-Agnès, tu fais bien de dire. En fait. Pardon, que ce soit clair pour tout le monde aussi à notre bibliothèque, ça met. En fait, il y a un petit groupe qui s'est formé pour lire les textes. Alors, les gens qui lisent ne sont pas forcément les auteurs du texte qu'ils sont en train de lire. Voilà. Et j'en profite pour faire mes excuses à Ami, dont je devais corriger le texte et je suis très désolée pour ce soir. Là, j'écris, pardon. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc voilà, les personnes qui vont lire ne sont pas forcément les auteurs des textes. Et c'est les gens
qui... Je vais peut-être juste redire une petite chose, de méthode. C'est bien si on enchaîne les textes sans préciser de quel atelier ça vient et tout ça, tout ça. Juste le texte, on balance du texte et point.
3 décembre 1951. Je viens d'avoir 21 ans, je suis donc majeure et responsable de mon avenir. Après les difficultés de la guerre et la période des privations, on est dans une période faste. Tout le monde travaille et découvre les 1000 choses dont nous avons été privés, et beaucoup de choses nouvelles qui souvent nous surprennent. Je reçois une lettre de mon amie parisienne qui m'invite à Paris chez elle pour fêter mes 20 ans, ma majorité. Ses parents sont très amis avec mes parents, donc pas de problème. Je me lance dans les préparatifs. Je prépare soigneusement ma valise afin de ne rien oublier et je vais réserver mon billet de chemin de fer. Je prends le train Toulouse-Paris, appelé le Capitole. Grand confort. Et de plus, il y a un wagon-restaurant avec une cuisine recherchée, digne d'un grand chef. Mes amis m'attendent à la gare. Et nous sommes heureuses de nous retrouver. Le lendemain, nous allons manger dans un grand restaurant où nous avons la surprise de voir pour la première fois la télévision, qui n'est qu'à Paris et dans les grands hôtels ou cafés. Le lendemain, nous allons nous promener sur les Champs-Élysées. Chez Renault, en vitrine, il y avait la nouvelle voiture révolutionnaire, petite, et qui avait le moteur derrière et la malle devant. C'était la 4 chevaux qui était la voiture des jeunes. Et ma troisième découverte, était le Coca-Cola qui nous arrivait d'Amérique. Mais toutes ces nouveautés n'étaient encore visibles qu'à la capitale. Et moi, en jeune fille moderne, j'étais au courant, car je lisais Elle, le premier journal féminin qui m'a permis, tout en étant en province, de connaître les nouveautés de la capitale.
« 17 novembre 1955. Je suis obligée de me cacher. J'ai 12 ou 13 ans. Je mets un voile sur la tête pour me cacher des hommes. C'est obligatoire. J'ai un frère terrible qui m'interdit de parler en français aux soldats français qui viennent toquer à la porte, soi-disant pour acheter des œufs. Et je dis que je ne sais pas parler français. Moi, j'ai la rage. » Car je veux bien parler avec eux, ce sont de beaux jeunes. Cela me fait de la peine car ils cherchent à parler en français et je leur ferme la porte au nez. J'ai la rage et de la peine en même temps.
Quand les Espagnols sont rentrés en France, rien n'était prévu pour les recevoir dans le sud-ouest et nulle part ailleurs. On ne savait pas qu'ils allaient passer la frontière en masse de cette façon. Alors, on a mis les hommes dans les camps de concentration à la hâte. Chez nous, là où je vivais, il y avait des usines désaffectées qui ont permis, si on peut s'exprimer ainsi, de loger les femmes, les enfants et les vieillards. Ma tante, on disait que c'était une dame d'œuvre, c'est-à-dire qui faisait des bonnes œuvres, des œuvres charitables dans la paroisse, faisait le porte-à-porte, et elle allait ici et là pour demander des objets, des couvertures, des vêtements, tout ce qu'elle pouvait trouver et qui pouvait servir aux réfugiés. Une dame d'origine espagnole qui s'était installée ici et qui n'était jamais retournée dans son pays parce qu'elle s'était mariée, à cette occasion-là, a retrouvé sa langue et servait d'interprète dans un local où on les recevait, le refuge. Moi, j'étais fascinée par tout ce qui se passait. J'étais très curieuse et tous ces gens de cet ailleurs qui venaient vers nous. Ma mère ne voulait pas que j'aille au refuge, mon père non plus. Moi, j'y allais quand même. Je voulais comprendre. Je demandais à ma tante d'attendre que je sorte de l'école et j'allais l'accompagner. Je me rendais compte que c'était un événement important. D'ailleurs, je lisais déjà couramment, alors je lisais les journaux. J'étais plus avancée que beaucoup d'enfants de mon âge parce que je lisais beaucoup. À cette époque, quand on entrait à la grande école, on savait déjà lire et écrire. Le gros problème à l'époque, c'était de nourrir tous ces gens. Les hommes, on les mettait à travailler dans des fermes. Mais vers 42, ils étaient libres. Quand ils sont sortis des camps, il leur fallait une offre d'emploi et des papiers. En 42, j'avais 12 ans. Mon père avait engagé un Espagnol qui demeurait avec nous jusqu'en 68. Il est parti seulement quand mon père a vendu son commerce. Je ne savais pas quels étaient mes sentiments, mais je sais que j'étais fascinée par cet événement. Annie.
Cher vieux Shibani, je te regarde tous les jours de ma fenêtre. Tu es assis sur ce banc en face du chez moi. Et tous les jours, je me demande à quoi tu penses. J'ai envie de descendre l'escalier, traverser la rue animée et agitée par tant de passages, et venir m'asseoir à côté de toi. Je veux dans un premier temps respecter ton silence. Je suis silencieuse moi aussi. J'ai envie que l'on soit côte à côte à observer ensemble toute cette agitation de la rue. J'ai envie qu'on se retrouve comme ça tous les jours à la même heure et que ça devienne notre petit rituel. Je serais impatiente de savoir ce que ton regard de Shibani voit par rapport à mon regard à moi. Je sais qu'en regardant le même spectacle de la rue, on ne voit pas tout à fait la même chose. Je veux que par ton silence et ton regard, tu apprivoises mon impatience. On vit sur la même terre. Excusez-moi. On vit sur la même terre, on est assis sur le même banc, on ne voit pas la même chose et pourtant on regarde dans la même direction. Alors je serai patiente et j'attendrai que tu rompes le silence. J'attendrai que tu me racontes ton exil, ce que tu as laissé là-bas, ce que tu as trouvé ici. Ton histoire est similaire à tant d'autres Shibani métropoles. Je me demande si toi aussi tu habites toujours dans un de ces foyers Sonacotra et ses pourcontes eux aussi. Je me pose la question parce que sur ton banc, je te vois toujours tout seul et je me demande si tu as perdu tes compagnons d'exil, Je suis l'obligation de silence avec que c'était plus facile pour toi de rester seule. Je me demande aussi si tu restes seule par choix pour éviter de parler, pour ne pas raconter les humiliations et les souffrances. Alors tu risques de vivre ma présence à tes côtés comme une intrusion de plus dans ton histoire. Excusez-moi. C'est pour ça que, cher Shibani, je respecterai ton silence et j'attendrai que peut-être, pour une fois, ce soit toi qui décide.
Mais je t'avoue que j'ai très envie que tu me racontes ton histoire. Et j'ai très envie que tu me dises ce que tu vois aujourd'hui dans la rue avec tes yeux de Shibani. J'ai très envie que tu me racontes ce que mon père ne m'a pas raconté et qu'il ne me racontera pas maintenant qu'il est parti. Mais tu sais, lui aussi, tous les jours, il allait s'asseoir sur son banc. Je lisais dans son regard la solitude et le silence. J'ai hérité du même regard, mais moi, j'ai envie de savoir. Mais je n'avais pas t'envoyer cette lettre, mon vieux Shibani, parce que je sais que comme bon nombre d'exilés comme toi, tu ne sais pas lire. Alors, je vais garder cette lettre pour moi et je vais venir m'asseoir à côté de toi, sur ce banc, et attendre que tu décides d'arrêter le silence. Aide-moi à faire en sorte que toi et tes compagnons d'exil, je ne vous vois plus comme des vieux fantômes qui errent dans la ville, parce qu'ils n'ont pas réussi à planter leurs racines quelque part, à cause de la politique d'un pays qui vous a utilisé et puis qui vous a oublié. Aide-moi à faire en sorte qu'on ne vous oublie pas. Je crois qu'en rompant le silence, tu peux aider les jeunes générations à comprendre l'histoire mieux que celle qui est racontée dans les livres. Oui, je sais. Je te demande encore de faire des efforts, de continuer à aider les jeunes à se construire, toi qui as tant construit pour ce pays. Sais-tu, mon cher Shibani, que tu es un grand architecte, parce qu'après avoir construit les immeubles, les routes, les voitures, les ponts et les villes, tu participes à la construction de l'histoire, la grande histoire, la petite histoire et mon histoire par la même occasion.
New York, mercredi 12 septembre 2001. Cher Rama, je prends ma plume pour enfin t'écrire après ces 4 longs mois que je viens de passer dans mon pays d'accueil. Depuis hier, l'Amérique chante. Même dans notre village de Kerema, vous avez dû ou vous allez bientôt entendre sa clameur. L'Amérique chante sa puissance et son déclin. L'Amérique a fait un rêve. Un rêve où un jour toutes les races, les religions et les genres vivraient en paix dans un pays suralimenté, surarmé et surpuissant. Mais le diagnostic posé par le docteur n'était pas le bon. La plaie s'est gangrénée. Alors aujourd'hui, elle chante. Elle chante un bonjour au monde de sa voix éraillée d'avoir trop gueulé son omniscience et son omnipotence à la face de tout l'univers. Son bonjour est une supplication de muezzin fou. Je suis désolée, mais... Les petits ouvriers de la Great America se sont bel et bien levés. Ils sont enfin sortis de l'ombre et de leur torpeur. Mais à moitié seulement. Une partie d'eux-mêmes s'accroche encore au pied droit du colosse. Le pied droit de la finance, du dollar, de l'injustice et de l'iniquité. Ils chantent pour conserver l'espoir d'un autre lendemain. In God they trust. Mais Dieu, lui, ne croit plus en eux. Épuisé par l'ouvrage, il a décidé de les regarder s'entretuer. Il est triste pour les guerres que l'on fait en son nom. Mais il sait que le colosse ne pourra plus faire machine arrière. Il ne se soumettra que lorsque son ventre sera plein de la chair, dont le sang lui coule encore sur les mains. Le colosse manipulateur est devenu un véritable tyran. Sa tyrannie, guidée par sa colère et sa douleur, n'a plus de limites. Sa vengeance sera cruelle, car il a oublié la réflexion qui pourrait le conduire au pardon. Parce que pardonner, c'est comprendre, et comprendre, c'est s'écouter. S'écouter, c'est se regarder, et le colosse est bien trop laid pour pouvoir supporter sa propre image. Il veut continuer à se voir dans le regard de l'autre. Les ouvriers se sont levés sans se regarder. Et d'où ils se trouvent aujourd'hui, ils voient dans le lointain leur chère Amérique prendre des couleurs différentes. Des couleurs de montagnes rouges, d'Asie, d'Afrique et d'Europe. Tous ces paysages qu'ils voulaient gommer dans la bannière étoilée sont devenus des poussières d'étoiles, couleur rouge sang. L'Amérique conquérante, divine Amérique. L'Amérique rêvée, fantasmée. Mardi 12 septembre 2001, l'Amérique n'est plus. Ces champs ne feront plus pousser les blés. Ces champs sont devenus des champs de bataille. Et dans ces champs, les ouvriers ramasseurs de coton ont vu la conscience les submerger. Tel un ouragan, la conscience s'est saisie de tout et de tous et a ouvert une voie vers la liberté, vers l'action. La terre entière est devenue en un seul jour américaine. New York et Séville, Porto, Moscou, Monrovia, Tunis, Mexico, Tripoli, Dakar, Sydney, Stockholm, Jakarta, Lyon ou encore Conakry. En ce jour, les ouvriers ont décidé de se lever et de chanter. Tel le Christ mangeant le pain maudit qui les conduit à devenir Bacchus. Un Bacchus ivre, amnésique et titubant qui cherche à se relever pour trouver de nouveaux repères. Les ouvriers sont les prisonniers du colosse, colosse qu'ils aiment et qu'ils haïssent. Ils cherchent aussi de nouveaux repères face à la puissance reconnue du colosse. Ils veulent sonder son esprit, y entrer comme on entre en enfer. Ne sachant pas ce que l'on va pouvoir y trouver, mais en ayant la certitude que ce qui s'y loge ne peut qu'être terrible. Les vapeurs de cet enfer les feront sûrement suffoquer. Ils perdront souffle, énergie et peut-être aussi espoir et confiance. Mais leur seul salut est dans l'action. Ils n'ont plus d'autre choix. Ils chemineront péniblement à travers ces vapeurs et laisseront de côté les cadavres mourants des plus faibles. Tandis que, mains croisées sur leur cœur, ces prisonniers continueront d'avancer. Ils s'aveugleront certainement de tant d'atrocités, mais ils pourront aussi arguer du fait que le chemin vers la liberté a un prix, celui du sang versé. Les plus vulnérables resteront, eux, sur le bord du cratère et attendront, résignés, de connaître enfin leur sort. Les enfants de la Terre Nouvelle entameront alors une nouvelle chanson. Cette nouvelle race de chanteurs se sentira chez elle dans le colosse. Ils deviendront ses maîtres. Et ces nouveaux maîtres établiront un nouvel ordre mondial. Colosse qui hier encore possédait la Terre entière, Afrique, Europe, Amérique, Asie et Océanie. Ces cinq continents vont se retrouver sur tes cendres. Et après avoir chanté ton nom, ils vont se mettre à danser sur ta tombe. Salue le monde, Colosse, car celui-ci va te brûler. En ton nom, les mains dressées vont te bénir, car c'est sûr, demain tu vas mourir. Alors ma chère Rama, ne regarde plus l'Amérique avec des étoiles dans les yeux, car ton idéal d'Amérique n'est plus.
Enfin, elle s'est endormie. Elle regarde son visage apaisé mais exsangue, lui frôle doucement la main, l'amour de toute une vie. Elle sort de sa chambre et va pleurer sur le banc au soleil, devant la petite maison. C'est elle qui l'a vue la première, ça fait si longtemps, mais elle n'a rien oublié. Un visage très brun, avec un regard brûlant, long et maigre, un nez en bec d'aigle, des cheveux très courts, avec une mèche aile de corbeau sur le front. Ce fut pourtant un simple regard échangé, mais mon cœur s'est serré et j'ai eu froid soudain, un bref instant. Il est monté dans le train. Il a fallu la foire de l'automne pour qu'elle le revoie à nouveau. Il est venu vers elle, un verre de vin chaud à la cannelle, dans les mains, un cornet de marron chaud dans l'autre, et lui a offert les deux. Il rit beaucoup ce soir-là, beaucoup et de rien. Rendez-vous après rendez-vous, très court parfois, ils eurent des moments de bonheur simple et de tendresse complice. Ils travaillaient dans une sphère des environs. Diego, c'était un rouge comme on disait alors. Mon père s'est un peu emporté, a craché par terre son mépris et a claqué la porte. Mais quand je l'ai amené à la maison, personne n'a rien dit. Mon père a fait le signe de la croix sur le pain avant de le distribuer. Ma mère n'a pas levé la tête de tout le repas. Mais ma joie et nos sourires ne virent rien de tout ça. On s'est mariés 2 ans après, Diego et moi, faute d'argent. Et hélas, nous n'avons pas eu d'enfants. Nous avons mené une vie de labeur quotidien, tous les deux, côte à côte, sans nous plaindre jamais. Sans dispute. Sauf quand il allait voir ses copains communistes et qu'il avait un verre dans le nez et qu'il s'emportait, mon Diego. Alors je lui fermais la porte de notre chambre au nez. Et puis, tout doucement, la vieillesse s'est installée dans son regard. Il était vite épuisé. On restait souvent quelquefois au soleil sur le banc qu'il avait fabriqué. Et là, pour la première fois de notre vie, il allait me quitter. C'est beau.
C'était un matin d'été. C'était chaud. J'essayais de monter une cabane de pierres, des pierres petites en bas, moyennes au milieu, et des grosses pierres tout en haut. J'avais pas vu un souci, c'est que le sol était d'une humidité absolue. Alors je cherchais d'où venait cette humidité. Au loin, j'aperçus un chien noir hérissé, d'un poil abîmé et blessé. Je ne comprenais pas d'où venait ce chien. Ce chien m'effraya, je me cachais et je m'éloignais de lui. J'avais construit une cabane immense. Il me manquait des fenêtres pour m'éclairer, mais si je mettais des fenêtres pour m'éclairer, ce ne serait plus chaud. Puis, j'aperçus que l'humidité venait d'une rivière où l'eau clapotait, s'échappait et pétillait. Je ne savais pas comment l'eau pouvait pétiller. J'essayais plusieurs moyens pour faire pétiller l'eau. On m'avait parlé de l'eau pétillante, mais je me disais... C'est pas le même pétillant. Je retournais voir la rivière et de nouveau l'eau pétillait. Je m'approchais plus près de l'eau et je compris d'où venait ce pétillement. C'était les pierres en bas de la rivière qui le produisaient. Mais je voulais toucher pour voir l'effet que ça me ferait. Quand je touchais, je m'aperçus que l'effet pétillait n'était plus là, que c'était de l'eau, rien que de l'eau. Ça m'énerva à force de regarder l'eau, un ennui apparut à rien faire. Même si l'ennui était là, il y avait un endroit éclairé. Mes jambes étaient lourdes, très lourdes, mes bras aussi. Impossible de me lever, c'est une incapacité. Mais je voulais tellement aller dans cet endroit éclairé, même si où j'étais c'était chaud, mais il y avait une telle humidité que je ne pouvais pas rester là. Il fallait que j'aille à l'endroit éclairé. Il fallait que je réfléchisse où je pouvais dormir. Vu que j'avais mis toute l'après-midi à construire cette cabane, il fallait que je dorme. Là-bas, et soudain, un instant d'humanité m'arriva. Si je construisais mon lit en bois, je serais plus en hauteur. Si je mettais des planches, ça me permettrait de me coucher. Mais si à la place je mettais des feuilles, ça serait plus confortable. Quelle galère de trouver comment faire un lit, surtout que ce n'était plus éclairé. Je me repérais en touchant les pierres. Mais où était passé ce chien noir? Où il était? Je ne le voyais plus, je m'inquiétais. J'avais peur qu'il soit tombé dans la rivière. J'essayerai de le récupérer demain, quand l'endroit sera éclairé. Je me couchais. L'eau pétillait toujours. J'aimais ce bruit, mais c'était un bruit sourd et étrange. Mais à la fois ça me détendait, j'étais calme et je m'endormais. Puis soudain le matin, je sentis une sensation bizarre comme quelqu'un qui me léchait les pieds. Je me disais, c'est pas possible, personne dans cette cabane, et l'eau continuait à pétiller, ça ne me réveilla pas, je croyais que j'étais dans un rêve, puis la personne me sauta dessus et me réveilla en sursaut et j'aperçus cette bête noire avec un poil sale me lécher. Et en fait c'est le chien que je cherchais. Je décidais de le nettoyer, mais comment faire sans savon? J'ai dit tant pis. Je le nettoyais à l'eau et je revis ses bulles dans l'eau qui pétillait. Et cette cabane, toujours aussi belle, toujours aussi humide, c'était l'été, c'était chaud, ça pétillait et un instant d'humanité était là. Je m'occupais toujours de ce chien. Je le nourrissais de poissons que je pêchais, mais je ne pouvais pas manger cru. Un petit endroit était pas humide. Je décidai de m'éclairer et de me nourrir avec le feu. Je pris une pierre, je la mis dans le chaud, le feu arriva. J'étais contente de trouver un instant de l'humanité qui venait de la préhistoire, le feu. Puis, avec plusieurs pierres, j'essayais de me faire des assiettes, des fourchettes, des couteaux. Malgré le feu, il y avait toujours cette humidité. Je n'en pouvais plus de cette humidité, de ce chaud. Je décidai de construire une cabane en haut d'un arbre en bois. J'étais plus éclairée et c'était chaud. Je me rappelle de ce jour d'été.
Je m'appelle Sidia, j'ai 12 ans, je vous vois, je vous entends. Il m'arrive aussi de vous comprendre. Mais vous, vous ne m'entendez pas. Parfois, vous ne me voyez même pas. Je vis dans une cage. Cette cage, c'est mon corps, c'est ma tête. Une vieille femme que je vois souvent répète sans arrêt un mot qui sonne bizarrement. Otis. C'est un peu comme un jeu. Auto, otitis, auto, auto, otitis. Otis, c'est rigolo. Quand j'ai envie d'entendre ce mot, je prends son visage dans mes mains et je la regarde droit dans les yeux. Parfois, ses yeux brillent si fort qu'ils se mouillent. Moi, mes yeux se mouillent rarement. J'aime bien quand ça arrive. Sentir sur mon visage comme des gouttes de pluie qui me caressent. Pas comme quand on est dehors et qu'on a le visage tout dégoulinant. Non, non. Comme de l'eau qu'on a en dedans et qui sort quand on veut et qui va où elle veut sur mon visage. Mais alors là, quand je fais sortir l'eau, les autres, ils le voient et ils veulent tous me prendre dans leurs bras. Et moi, qu'on me touche, j'aime pas ça. Les autres, ce sont tous ces gens que je vois plus ou moins souvent. Certains ont des noms qu'ils me répètent tout le temps, détachant bien les sons. Papa, maman, rime. Même la vieille dame autiste, elle dit « mamie ». Eux, je les connais. Je connais leur visage, le son de leur voix, leurs odeurs. Normal, ils tournent beaucoup autour de ma cage. Ma cage, c'est ma maison. Et dans ma maison, je fais venir qui je veux. Rime, elle vient souvent. Elle sent bon, elle sent le lait. Elle a des cheveux longs, 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 mais longs. J'aime bien les toucher. On s'allonge par terre et je mets ma tête dans ses cheveux. Ses cheveux, ils sont tellement doux que je voudrais bien dormir dedans doux, comme un morceau d'oiseau, une ploume. Alors elle ouvre la bouche et fait des bruits trop marrants. Moi aussi, j'ai envie de faire ces bruits, alors j'ouvre bien grand ma bouche aussi, et là, tous les autres font aussi des bruits avec leur bouche. Dans ma cage, je fais aussi entrer une dame qui a une peau qui ressemble à un truc que j'aime trop, le cocola. Je le connais, ce mot, parce que quand Rime le dit, on nous en donne et on s'en met plein la bouche et sur les doigts. Cette dame, cocola, elle vit aussi avec des gens, dans sa maison. Je le sais parce que quand j'en ai marre de ma cage, j'ouvre la porte de la maison des autres et je marche droit devant moi pour aller ouvrir sa porte et la regarder. La première fois, elle m'a regardée avec un drôle d'air et puis papa est venu me chercher. Elle a parlé avec papa et j'ai bien aimé sa voix. Elle a ouvert sa bouche, a fait des bruits en secouant sa tête et m'a touché le visage. Ça n'a plus. Alors maintenant, j'y vais souvent. Sa maison, à elle, elle est pleine d'autres cocolas, des petits, des grands, et pas la même peau. Ils sont toujours en train de parler, d'ouvrir leur bouche pour faire des bruits, pour montrer leurs dents. On dirait qu'ils jouent à des jeux avec leurs mains. Ils se touchent souvent, eux, quand ils entrent, quand ils sortent, quand ils mangent, quand ils parlent, et ils disent tout le temps des mots rigolos. Salam, quand je rentre. Boutinam, quand je pars. Je ne sais pas si les autres de ma maison les comprennent, mais moi, oui. Chez eux, il y a une petite fille, Yeli. Elle a toujours un livre à la main. Et des fois, dans ses livres, il n'y a même pas d'image. Elle les ramène à la dame Cocola qui s'assoit sur le grand canapé et les ouvre. Nous aussi, on s'assoit à ses pieds et on écoute dès qu'elle commence à parler. J'aime trop sa voix, on dirait de la musique. Je ne comprends pas toujours tout, mais Yeli, elle écoute et pose beaucoup de questions.
Est-ce que c'est un dessin de demander qui a écrit ça?
En fait, ce qui est intéressant surtout, c'est le contexte dans lequel ces textes ont été écrits. Ce texte-là a été écrit après que quelqu'un eut raconté une histoire où elle parlait d'un enfant autiste, enfin, qui lui est très chère, qui a son petit-fils, et elle en parlait. Et dans un deuxième temps, il y a eu l'écriture, et ça a été comme une réponse à une construction à partir de... Est-ce que j'explique bien, Lynne ? À partir de... C'est-à-dire un écho, finalement, à partir de ce que disait...
Non, parce que c'est magnifique.
Oui, ah oui, les textes sont...
C'est joyeux, alors que c'est...
Oui.
Et mademoiselle, madame, a une façon de le... Elle ne le dit pas, elle le vit.
Oui.
Avec son timbre de voix, c'est vraiment agréable.
Oui, et il y a un texte, celui qu'on a lu, en fait, pas avant celui de Lynn, c'est-à-dire c'est une expérience à partir de photos. Les gens avaient des photos, et à partir des photos, il y avait deux. Enfin, ce texte-là a été écrit parce qu'il y avait deux personnes âgées sur la photo. Et c'est de la fiction, mais ça a l'air d'être un texte...
très militant.
C'est magnifique, c'est super. Alors c'est cette expérience qu'on a vécue dans les ateliers d'écriture et j'ai trouvé ça vraiment incroyable.
Mais peut-être qu'on peut aller au bout de la lecture pour pouvoir ensuite justement discuter en ayant entendu divers aspects.
Les voitures roulaient nombreuses et nous n'étions pas pressés. Surgissant de nulle part, le silence s'imposait parfois quand la route était vide. Alors les pas prenaient de l'importance. La scansion des pieds sur le gravier devenait rythmée. Une attention musicale retenait la pensée, arrêtant sur leurs lèvres ce qu'elles allaient dire. Ces deux sœurs avaient été des petites filles. Elles accordaient leurs pas, ni trop longs, ni trop courts. La juste tension permettant un accord, la naissance d'un rythme. Car, dans le silence, c'est de cela que nous nous faisions part, de notre accord, de notre mutuelle tendresse. Nous aurions aimé revenir à l'essentiel dans ce silence improviste, mais les mots nous faisaient peur. Et puis, quand le bruit des moteurs revenait, toi ou moi reprenions la parole, parce qu'il couvrait nos voix. La mer aurait dû rassurer sur le surgissement des montagnes arides, au lieu de son rire ironique aux éclats de métal et ses yeux bleus, effrayants de colère, quand son amour intermittent et dangereux se retirait, laissant plein de cicatrices dont les blessures étaient étonnamment vivantes.
Le volcan. Nous savions bien qu'il était loin, pourtant nous l'avions plusieurs fois rencontré au cours de ses promenades éruptives. Aussi, nous en avions tous un peu peur, et beaucoup n'osaient s'en approcher sous aucun prétexte. D'autres plus confiants se promenaient le dimanche au bord de son gouffre. Il coulait de temps en temps, dérobant çà et là des arbres et des animaux. Là un cochon, ici un oiseau, que l'on retrouvait ensuite carbonisé, comme fossilisé, à tout jamais prisonnier de la lave. Jimbo se rappelait d'une séance chez le kiné. Il n'aimait pas souvent aller chez le kiné, bien que ce dernier lui faisait le plus grand bien. Un homme grand, trapu, avec des muscles puissants, propre sur lui et apprécié les femmes mûres qui se régalaient de ses massages afin de tromper leur solitude. Il était spécialement impressionné par cet homme, par sa capacité à prendre le temps. Il était un peu comme le volcan. Les corps restaient au repos pendant des années, ou plutôt tiraillés par le travail. Les mains du kiné recouvraient de lave bienfaitrice les dos usagés. Jimbo ne se préoccupait pas vraiment de tout ça. Ce qui importait pour lui, c'était l'amour. L'amour de sa vie, en l'occurrence une princesse qui vivait au fond des montagnes. Il l'avait vue en rêve, et lorsqu'il se faisait masser, il retrouvait cette femme tant désirée. Dehors, les enfants s'amusaient à la balle ou à pousser une vieille jante de bicyclette. Ils étaient tout contents, car ce soir-là, c'était la fête. Ils allaient enfin pouvoir se gaver de bonbons aux fruits. Il y avait dans le village un vieil homme qui adorait faire pousser des arbres fruitiers, et il récoltait les fruits pour en faire une énorme quantité de bonbons, que les enfants dévoraient le soir de la fête de Tabakti. Jimbo était étonné car sa mère ne l'avait pas encore invité à partager le repas du soir. Un repas exceptionnel qu'elle cuisinait pendant des heures. Toute la maison se préparait pour ce repas exceptionnel. Ils étaient en quête de souvenirs. Ils avaient regardé pendant des heures ces vieux films VHS pleins de promesses. Planète interdite et les survivants de l'infini. Le kiné faisait rouler ses mains lentement sur le dos de Jimbo, créant des sillons profonds comme les longs bras du volcan. Là-bas, la femme de ses rêves était-elle aussi prête pour la grande fête de Tabakti? Elle avait rameuté tous les princes et princesses qui traînaient dans les environs. Jimbo l'imaginait se levant le matin, le soleil irradiant de reflets dorés, sa peau si douce et fragile. Ce soir, il irait lui aussi à la fête, mais chez sa vieille mère. Il aimait tant les douceurs qu'elle lui préparait. Le téléphone sonnait longuement, mais le kiné ne réagissait pas. Ou plutôt si, il continuait à masser inlassablement le dos noué de Jimbo.
Lorsque tu liras cette lettre, il ne sera pas trop tard. Rappelons-nous d'abord avec les coquillages de l'enfance qui ne joue plus à la guerre. Au fond, les trésors des pirates dorment. Touchons l'un et l'autre une fleur proche. Un parfum commun nous retrouvera. L'humus veille. Relais le timbre imprécis de ma voix pour phagocyter la noirceur de l'histoire. Tu as choisi là-bas, je suis ici. Encore désunis, la force de notre amour devra ployer les forêts jetant les bases d'un pont sans checkpoint. Plus tard, nos deux corps entraveront la déforestation. Balançons l'urbain et le rural sur les plateaux montagnards. Sur l'école, une grande écharpe orangée traînée par le soleil nous couvre. Interroge-toi sur le divin avant d'avaler platement l'hostie lunaire. Comme nous ferons un, spirituels et religieux seront un, deux, trois. Allumons les sept merveilles du monde pour éclairer ton visage noir et blanc. Brûlons nos contraintes quotidiennes dans un feu carnavalesque qui fera la date du 4 février 2012. Les sans-abri dégelés glaceront les financiers sur papier. Jonglons au-dessus des cimes enneigées avec les lettres de l'alphabet pour comprendre tous les humains. Écoute dans le silence des animaux de la nuit mon souffle éteindre la géographie des frontières. Bâtissons de tous les bois morts de la terre des cimetières ouverts. Tu entends déjà les mots d'amour? Les cadenas des archives sont solides. Levons, toi et moi, les secrets défendus. Te voilà, seul, au milieu de presque rien, t'étirant au rythme du soleil. pieds nus, tu glisses sur des grains bruns. L'or et l'argent ont été liquidés et liquéfiés dans l'oasis. Mains enfin jointes, nous traçons au sol une histoire sans mémoire. Une paroi rocheuse couverte de végétation. Un mur, oui, un mur. Grand comme le silence, définitif comme l'absence, une loi. Une seule qui s'érige, cette loi naturelle qui rend au plus fort la seule origine animale. Vous êtes les maîtres d'une vie que vous ne contrôlez pas. Une paroi rocheuse couverte de végétation. Les mains comme les sœurs se sont plantées dans la chair de nos pères et déchirent l'humanité, l'ensanglante d'instinct, jusqu'à ce que la sauvagerie bascule. Sauvage, oui. Corps et état sauvage, oui. Indomptable, mais tortionnaire, vil ou assassin, bourreau et éventreur. Comment est-on touché par la parole de l'autre? Dans l'écoute, le partage? Vous êtes les maîtres d'une vie que vous ne contrôlez pas, une paroi rocheuse couverte de végétation. Les souffles s'enchevêtrent. Les souffles s'enchevêtrent pour aller jusqu'au bout de la course. La direction leur échappe, alors ils se perdent, se tordent, le bruit grince, la rumeur qui court ne sait plus ce qu'elle dit et déverse sur son passage le massacre de la vérité. Les flèches vont droit au cœur, à peine inutiles. Comment êtes-vous touché par le récit de l'autre? Dans l'écoute? Dans le partage? Vous êtes maître d'une vie que vous ne contrôlez pas, une paroi rocheuse couverte de végétation. Il faudrait que la lumière cisèle le mur, qu'elle le transperce et qu'il fonde sous la chaleur. Quand une respiration de parole se démantibule l'histoire, ne sommes-nous pas affublés des mêmes nageoires? Les crocs dont nous sommes parés ne sont-ils que sanguinaires? Une paroi rocheuse couverte de végétation, que l'on se hisse près du soleil, droit au zénith, contempler naïf le récit de l'autre. Comment êtes-vous touché par le récit de l'autre? Comme une poitrine, aux fesses, aux astres, dépouillée de ses voiles, dans l'écoute, le partage, dans l'écoute, le partage, dans une nudité crue. Dans l'écoute, le partage, une paroi rocheuse couverte de végétation, et pour seul habit, les lianes qui s'agrippent à la peau, tous ces fils attachés à soi, déliés, reliés, rompre, ciselés entre nous pour poursuivre. Vous êtes maître d'une vie que vous ne contrôlez pas dans le partage d'une paroi rocheuse. Comment êtes-vous touché par le récit de l'autre? Comment le partage? Écoute la paroi rocheuse couverte du récit de l'autre, d'une vie que vous ne contrôlez pas, se rhabiller. Derrière le mur, la fenêtre est ouverte, tes mains creuseront le sillon, que l'eau s'épanche ailleurs que dans les horizons sombres.
Commençons par des choses qui seraient certaines. La chaleur écrasante et le ciel, bleu comme un uniforme, appartiennent au présent vécu par les voix des deux enfants. Appelons-les lui et moi. La voiture blanche au bord de l'implosion a parcouru trop de kilomètres pour participer à la narration. Signalons juste la maison en toile fixée sur le toit qui abritera la famille dans le futur de l'été. L'essentiel réside dans la différence d'environnement quittée par les deux enfants. La mère était là. Sa fonction aurait été d'expliquer, de commenter. La parenthèse se referme à cause de l'été, mais surtout à cause de la stupeur du paysage découvert. La mère, elle revient, aurait dû rassurer sur le surgissement des montagnes arides. Nous avons gravi le col dans une sorte d'isolement spatial. Peut-être le père, conducteur de la voiture, a-t-il été en mesure d'apercevoir en premier l'autre côté ? Oui, il sera question de sable, de traces, de baignades, mais ultérieurement. Nous sommes encore dans un trajet dont personne ne dit la réalité, comme si les parents avaient offert un cadeau de Noël en juillet. À l'époque, nous ne faisions pas les choses à moitié. Un mois de vacances, le mot est enfin prononcé, c'était un mois de vacances. Revenons à l'essentiel qui s'est perdu à cause des voix. Les enfants, deux frères, portaient de l'urbain dans leur valise. La nature se lisait dans la voiture, une R6, blanche. Même blanche, elle restait d'un mutisme objectal. Pourtant, quel bonheur ludique cela aurait pu être pour les enfants, une voiture parlante. À défaut, ils se contentèrent de deviner les numéros des immatriculations et de se pincer à chaque deux chevaux vertes. Au grand-père paternel, elle avait appartenu la voiture. Imaginons un instant la voiture blanche en porte-voix de l'histoire familiale passant dans un autoradio inexistant pour l'époque. Toute la nuit, parce que c'est la durée réelle du voyage, au-delà de l'aube même, les deux frères calés à l'arrière entre la glacière et le barbecue furent bercés par les modulations sonores d'un ancien. Pourtant, nous voudrions revenir à l'essentiel, au moins pour justifier l'emploi du mot. Comme dans une tragédie, nous sommes prisonniers du maudit. Essentiel a été écrit. Alors vite, je le dis et je pourrais passer à autre chose. Ne nous préoccupons plus des autres personnes absentes, d'ailleurs, qui insistent pour modifier la réalité d'autrefois. L'assurance d'un mot, articulé par le frère cadet comme la surprise d'un autre monde. Il s'éveille et dit « C'est le Mexique !» Puis, toujours lui, pour la première fois, il voit la mer, ou ce qu'il croit être la mer.
À Palavas, dans la cuisine très petite, il y avait un buffet vert. En face, le réchaud à deux feux était tacheté de petits points gris, bleu foncé et blanc. À côté, un évier. Quand sa maman jetait dans la poêle chaude toutes les tellines d'un coup, une odeur de mer et un bruit délicieux envahissaient la pièce. C'était fascinant de voir une à une s'ouvrir les fines coquilles dont l'intérieur devenait violet. La cuisine était l'entrée, le refuge, le sas, entre une petite chambre où elle dormait avec sa grande sœur et de l'autre côté, la salle à manger qui était aussi la chambre de son papa et sa maman. Le soir, quand elle arrivait couverte de sel, le maillot plein de sable, on la posait debout dans l'évier. Elle devait donc être bien petite. En tordant le jet en caoutchouc bleu, accroché au robinet d'eau froide, on la rinçait. Parfois, elle recevait une brusque décharge de picotement en touchant le carrelage. « Jean, on a encore pris le courant !» disait sa maman. Certains jours d'été, elle avait la peau si rouge qu'il prenait la bouteille de vinaigre et en arrosait tout son corps pour calmer le coup de soleil. C'était froid, ça sentait fort, mais c'était bon. La nuit, elle faisait souvent un cauchemar terrifiant qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Elle était inconsolable. Sa maman et sa grande sœur excédée auraient voulu dormir, alors elle l'enfermait dans le cagibi aux chaussures pour qu'elle arrête. Dans le noir, tu reconnais l'odeur des vieilles chaussures. Tu les touches et ça te rassure. Il y a des espadrilles échevelées, leurs poils rêches en ficelle sortent de la semelle. des nu-pieds aux lanières de cuir racornies, et les grands patogas de ton grand frère, dont la toile est rugueuse. Malgré ses peurs terribles et ses sanglots dans le placard, l'appartement de Palavas était pourtant pour elle un refuge, car la taille de ses trois pièces était à sa mesure. De plus, il faisait partie d'un vieil immeuble dont elle connaissait les enfants des autres familles. Cela lui donnait plein de force pour affronter tous les longs autres mois de l'année dans une maison immense et vide. Elle attendait l'été toute l'année. Il y avait un garçon qu'elle voulait éblouir, car c'était le plus dégourdi de la bande. Aussi courait-elle à sa suite sur la poutrelle fine de la clôture en ciment d'une villa voisine. Ce garçon et elle étaient les deux seuls capables de courir ainsi sur la fine poutrelle. Donc, il était tacitement reconnu qu'ils étaient fiancés. Et puis un jour, la joie de l'enfance s'est arrêtée net. Palavas n'a plus été un refuge. La peur, la honte et la tristesse ont envahi ce lieu. Le papa de son fiancé a fait les gestes qui ont précipité son enfance dans le passé. Le présent s'est arrêté. Avant, il y avait les crabes, l'eau et la liberté, et puis les algues vertes que je me collais sur le corps pour me faire une robe de princesse.
D'anciennes mines. Ça fait longtemps qu'elle est fermée, la mine. Et pourtant, ça sent le charbon. Partout. Partout. Dans tout le village. Ma grand-mère sent le charbon. Ses voisins sentent le charbon. La boulangère sent le charbon. En plus, ses cheveux ont la couleur du charbon. Et en plus, elle a comme une boule de charbon derrière. Mais en fait, c'est son chignon. Son pain sent le charbon. Les chiens, les arbres, enfin, tout sent le charbon. Mais ça, c'est rien. Ça, c'est juste que ça veut dire, c'est le début des vacances, des grandes, grandes vacances. Aujourd'hui, on va rentrer dans la maison de ma grand-mère qui sent le charbon. On va manger dans sa cuisine qui sent le charbon. On va dormir dans les chambres. Et là, moi, j'ai la place dans le lit avec ma grand-mère qui récite ses prières. Et même ses prières, elles sentent le charbon. Et puis, c'est pas grave, parce que là, d'accord, c'est moi qui me tape les prières de la grand-mère. Mais ça veut dire que demain, oui, demain, c'est le grand jour, le plus grand jour de l'année, la ferme. Demain, on va à la ferme. Et je m'endors, bercée par les prières de charbon de ma grand-mère. Des étoiles dans les yeux, et un immense sourire, je pense. Aujourd'hui, c'est demain. C'est demain, et on est dans la voiture, et on arrive à la ferme. Là, je vais tout retrouver. Tous les sons, toutes les odeurs que j'ai essayé de ne pas oublier depuis les dernières grandes vacances. Ça commence par l'odeur de ma grand-tante. Elle a une odeur laiteuse. Et puis, elle est tellement grosse que quand elle m'embrasse, j'ai l'impression d'être sur un bon gros nuage. Et voilà. Toutes les bonnes odeurs de la maison, le pain de campagne, le poulet dans le four, le gâteau à la broche, ça sent bon. Toutes les odeurs réunies du reste de l'année ne sont rien du tout à côté des odeurs qu'elle a en une minute. Et on va se mettre à table.
une table d'au moins 10 mètres de long, avec plein de gens, plein d'assiettes. Une assiette pour l'entrée, une assiette pour le poulet, une assiette pour le poisson, une assiette pour le fromage, une assiette pour le dessert. Voilà, on a mangé. Et ça fait déjà un bon moment que je ne quitte plus mon cousin des yeux. Il le sait. Il m'a jeté des petits clins d'œil déjà. Et moi, je trépigne intérieurement. Il va se lever. Il va dire, j'y vais. Il va se tourner vers mon frère et moi. Vous venez bientôt? Tu parles qu'on vient bientôt. Ventre à terre même. Jamais de toute l'année, je ne cours aussi vite. Et pourtant, à Paris, on court tout le temps. Mais on ne sait pas trop pourquoi. Là, je sais pourquoi. Ça fait 364 jours que je sais pourquoi. Le bientôt est passé. 3, 2, 1, partez, foncez, volez. Sortir de la cuisine, à fond les manettes. Passer devant les tables, vides, les vaches sont au frais. Faire peur aux canards, aux poules, mais pas exprès, hein. C'est juste parce qu'on va trop vite. Aïe, là, il y a les cochons. Ouh là là, celui-là, il est encore plus gros que l'année dernière. Mais il faut passer par là. Dans la gadoue aussi, parce qu'après, on tourne, on monte la petite côte et on arrive devant le hangar. Le hangar, on va faire coulisser cérémonieusement, tremblant, la porte du hangar. On va trouver les montagnes de paille. Au fond du hangar, mon grand cousin, fourche à la main, poing sur la hanche, grand sourire, fier comme Artaban. On marche au ralenti jusqu'à lui, avec l'odeur de la paille qui passe par les narines, qui se propulse dans tout le corps. Et puis, on arrive jusqu'à lui, sans avoir regardé rien d'autre, juste pour garder la magie le plus longtemps possible. Et là, on regarde la cabane dans la paille. Elle est là. C'est la plus belle cabane du monde entier.
Seule la loquiote issue de ce cours nous éclaire, nous les petits pyjamas à la queue leuleux. Où on va?
Chut.
C'est la porte de la pouponnière qui s'ouvre. Nous, les petits pyjamas, on n'a jamais été autorisés à y entrer. C'est une odeur particulière qu'il y a dans ce lieu interdit d'accès aux petits pyjamas. Je ne me souviens pas très bien de l'odeur de la pouponnière. Je crois que ça se rapproche de quelque chose comme la poudre de talc, mais je n'en suis pas sûre. Ce dont je suis sûre, c'est que si un jour je sens l'odeur de la pouponnière, je m'en souviendrai. Chut. À la queue leuleux, un escalier, le premier étage de la pouponnière. Un petit pyjama devant moi, un petit pyjama derrière moi, et moi dans mon petit pyjama. Je crois qu'il était trop court. J'avais dû grandir depuis le début du séjour. C'est toujours dans l'obscurité qu'on avance, nous, les petits pyjamas. Une porte-fenêtre qui s'ouvre, la terrasse du premier étage. Les petits pyjamas ne sont plus à la queue leuleux. Il y a des mains et des chuchotements qui nous alignent. Des chuchotements et le roulis des vagues et de la mer juste en face. J'ai peur. La mer me fait peur la nuit. Où elle commence et où elle finit la nuit? On ne sait pas. C'est toujours l'obscurité des chuchotements. Il faut attendre. Attendre. Attendre quoi? Attendre qui? J'ai peur. Et puis, soudain, là, devant moi, ou plutôt au-dessus de moi, au-dessus de tous les petits pyjamas, une explosion de sons, de lumière, de couleurs qui remplissent l'immensité du ciel. Les petits pyjamas sont encore plus petits. Ça claque de partout, ça brille de partout, ça explose de partout. Mon cœur explose aussi. Mes yeux s'écarquillent. Je suis sans voix. C'est magique, c'est énorme, c'est grandiose. Et moi et mon petit pyjama, on est pile poil au centre de tout ça. Depuis, à chaque fois que ça se produit, mon regard d'enfant s'écarquille et je rentre à nouveau, avec bonheur, dans l'enveloppe de mon petit pyjama trop court.
Les années bonheur. Ayant eu une enfance mitigée, entre joie et peine, en regardant cette photo, je repense à mes 10 ans. Le scoutisme, les camps, les jeux, et surtout le fait d'avoir appris beaucoup avec très peu. Les jeux, les thèmes, ça m'a fait grandir. Et la mixité, avec d'autres cultures, que c'était bien. Il fallait aller chercher de l'eau, du bois, conserver le feu, les jeux de piste, apprendre le morse, apprendre à écouter. Le pire pour moi, j'avais peur des serpents. J'étais loin du train-train habituel de la ville, c'était l'insouciance. Surtout, nous avions de grandes chefs françaises avec des tresses. Il fallait aller de l'avant pour monter de grade comme une petite armée. Que de joie, de rire. Et puisque j'étais bonne comique, espiègle, de l'humour à revendre, j'ai gardé cela au fond de mon cœur et cela me sert toujours comme la devise, toujours prête, quoi qu'il arrive. Ayant grandi sur une île, quand on faisait des camps pendant les congés, c'était une expédition. Je revenais à la maison plus forte, car j'avais un père alcoolique qui me battait, une mère d'une beauté, d'un esprit, un cœur indescriptible. Tous les deux, grands fonctionnaires, à leur divorce, ça a été très dur. Je les ai perdus à 3 mois d'intervalle. J'ai élevé tous mes frères, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que ces années, bonheur, c'était comme sur cette photo, la tente qu'il fallait installer, avec des piquets, le sol aride, on se roulait dans l'herbe, communiquait avec nos sifflets. À l'heure où j'écris ces lignes, je suis toujours en contact avec ma chef telle, et cela fait 54 ans.
Commençons par les choses qui seraient certaines. 1. Il existe un lien entre les platanes et les petits pyjamas. 2. Nous sommes tous des petits pyjamas. Mettre son pyjama, c'est mettre son petit pyjama. Ce sont les mêmes platanes. En pyjama de frère et sœur. En pyjama, tu es mon frère. Tu es mon frère en pyjama. En pyjama, je suis ta sœur. Je suis ta sœur en pyjama. Entre nous, il y a le dehors, l'intérieur, la route et son allée de platanes. Des petites vies. Il y a les vies de jour et les vies de nuit. Les vies de nuit sont très longues au début. Au début, ces deuxièmes vies sont de longues vies. Au début et pendant longtemps. Pendant longtemps, une vie de jour égale un platane et une vie de nuit égale un deuxième platane. Après, ça change. Mais c'est difficile maintenant de se rappeler exactement quand et pourquoi. Plus tard, mettre son pyjama, c'est toujours mettre son petit pyjama. C'est décider ou faire attention. Faire attention pour continuer à avoir la deuxième vie. Il faut y penser, sinon 5 jours égale un platane et 2 jours un autre platane, mais en vrai, on perd tous les platanes. Ça s'évanouit.
Voilà, j'espère que vous avez entendu quelques bruits du monde, ce qu'était le projet de cette résidence.